Très bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Quand les internautes se livrent à un déferlement d'injures homophobes sur les réseaux sociaux, trop, c'est trop. Des associations et des avocats bénévoles ont déposé hier plus de 200 plaintes dans plusieurs tribunaux de France afin de mettre fin à l'impunité qui couvre encore trop souvent les auteurs de ces injures.
Trois jours après un premier oral marathon, Emmanuel Macron retourne sur la scène du grand débat. Face à 600 maires d'Occitanie, ils sont rassemblés à Souillac dans le Lot.
Et ces élus comptent bien faire entendre la voix de la rue alors que le gouvernement propose de réduire la dépense publique. France Stratégie, une agence rattachée à Matignon, propose, elle, des pistes inédites pour réduire ces mêmes dépenses publiques. Les aides publiques, effectivement, aux entreprises, ce sont l'une des pistes évoquées par cette agence. Un attentat a fait plus de 21 morts cette nuit en Colombie. Nous y reviendrons dans ce journal.
Et puis, la question du jour, dans une dizaine de minutes, Catherine, les leaders des Gilets jaunes sont-ils réellement apolitiques? Nous poserons la question à Roman Bornstein, il est journaliste à France Culture et il a rédigé une note pour la Fondation Jean Jaurès.
213 plaintes ont été déposées simultanément dans 12 tribunaux en France hier contre des messages à caractère homophobe publiés sur Internet. Cette action est menée par les associations Stop Homophobie et Mousse avec un réseau d'avocats pour que cesse donc l'impunité dont jouissent le plus souvent les auteurs de propos homophobes sur les réseaux sociaux. Fiona Mogadam.
C'est un flot continu d'insultes, de menaces de violence, voire de menaces de mort. Un déferlement de haine dont est régulièrement victime Lias Alouane sur Internet.
Ça va du « t'es dégueulasse, sale gay, va soigner ta maladie » à « espèce de sale sidaïque avec ton sida ». C'est des choses vraiment qui sont horribles que je vois.
Des propos qui généralement ne sont pas supprimés par les réseaux sociaux déplorent Stop Homophobie. Terence Khatchadourian en est le secrétaire général. Sur 10 000 messages signalés, 84% sont restés en ligne, même les plus violents.
Leur modération n'existe pas, il n'y a pas de modérateur. La seule chose qui nous répond en permanence, je vous dis, sur 84%, on a reçu rien d'inapproprié. Quel genre de propos? Celui qui m'a le plus choqué, moi, c'était vraiment quel est le meilleur combustible entre juifs et homosexuels? Puis les menaces qu'on reçoit, je vous dis, ils ont pris la photo de notre local avec des fusils pour nous montrer qu'ils allaient nous buter. C'est marqué, on va vous égorger, Twitter ne réagit pas.
Et il est en plus extrêmement difficile de condamner les auteurs de ce type de propos sur les réseaux sociaux car ils sont souvent tenus par des utilisateurs anonymes comme l'explique Étienne Desoulières, l'avocat qui a coordonné les dépôts de plainte.
Il faut donc que des agents de police judiciaire identifient cette personne-là, l'auditionnent une première fois pour lui demander si effectivement il a tenu ses propos homophobes et ça n'est que une fois que ces actes d'enquête ont été effectués qu'on peut engager un procès pour homophobie.
Malgré les difficultés, Stop Homophobie et leurs avocats espèrent que ces 213 plaintes entraîneront des condamnations et promettent que ce n'est là qu'un commencement.
Et d'ailleurs, Stop Homophobie et les avocats prévoient de déposer plainte contre Twitter dans les prochaines semaines pour obliger le réseau social à prendre enfin ses responsabilités. C'est une mesure emblématique de la réforme de la justice de Nicole Belloubet. La fusion des tribunaux d'instance et de grande instance a été validée cette nuit par l'Assemblée nationale, une mesure contestée par l'opposition, la gauche comme la droite qui s'inquiète de l'avenir de la justice de proximité. La garde des Sceaux promet, elle, de ne fermer aucun tribunal. La détérioration d'un service de proximité, une justice à deux vitesses, c'est pourtant ce que dénonce le Conseil représentatif des avocats qui souhaite que cette réforme de la justice soit discutée au sein du grand débat national, une concertation et un tour de France pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rend cet après-midi à Souillac, une commune du Lot qui l'avait déjà accueilli pendant la présidentielle. Comme en Normandie, en début de semaine, 600 élus d'Occitanie attendent Emmanuel Macron pour une longue séance de questions-réponses pour faire entendre notamment la voix de la ruralité, Rosalie Lafarge.
Partagé entre l'excitation du moment et l'inquiétude d'éventuels débordements, Jean-Michel Sansfourche, le maire sans étiquette de Souillac, peaufine son discours d'introduction à l'intention d'Emmanuel Macron.
Je veux pas qu'il m'écoute, je veux qu'il nous entende.
Et il en a des choses à dire, notamment sur l'état des finances des petites communes.
En 2014, on touchait 700 000 euros de dotation par an. En 2018, on a touché 380 000. Chaque fois qu'on porte un investissement, et un investissement, c'est générateur de main-d'œuvre, de TVA, d'activité et tout. Et quand on est subventionné, dans le pire des cas à 50% et dans le meilleur des cas à 80%, On est passé à côté, nous, commune de Souillac, une petite commune de 4000 habitants, à côté de 4,5 millions d'investissements qui n'ont pas été faits.
Au-delà des moyens, c'est tout un échelon qu'on méprise, selon Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot.
Il y a 20 ans, quand un conseil municipal délibérait, cela avait des conséquences. Aujourd'hui, nous passons, nous les maires, je l'ai été pendant des années, notre temps à prendre des délibérations qui ne sont sans conséquences. Sur les fermetures d'écoles, on interroge les municipalités refusent par délibération la fermeture de leur école. Et l'État, le préfet, le directeur des services académiques passent quelques heures après en disant bah, « c'est pas grave, on s'assoit sur votre délibération ».
Mais pour le macroniste Jean Launay, ancien député du Lot et ancien président de l'association des élus du département, il faut laisser sa chance au chef de l'État.
Le parti de faire les 13 régions françaises, en faisant le choix délibéré de prendre des endroits excentrés par rapport aux métropoles, ressort d'une volonté justement de ne pas rester uniquement dans les sphères parisiennes, d'aller à l'écoute de la respiration des territoires et d'en tenir compte dans ce qu'il a défini lui-même comme un acte 2 du quinquennat.
Sauf que cette écoute prétendue des territoires, elle a déjà eu lieu, répondent les opposants. Ça remonte à la campagne présidentielle et un an et demi plus tard, ils ne sentent pas le progrès pour la ruralité.
Et pour nourrir et orienter la concertation nationale, le gouvernement a publié sur le site granddebat.fr un tableau intitulé « Ce que finance 1000 euros de dépenses publiques », tableau élaboré à partir de données d'Eurostat et du Trésor public. De son côté, France Stratégie, le centre public d'analyse prospective rattaché à Matignon, propose 3 scénarios inédits pour réduire le poids des dépenses publiques. Dans une note publiée hier et qui compare la répartition des dépenses de l'État français à celle de ses voisins européens, comparaison qui révèle bien des surprises à leur choix.
Le ratio des dépenses publiques françaises, 56,5% du PIB, est l'un des plus élevés d'Europe. Mais les choix budgétaires français sont aussi des choix collectifs et faire des économies ne signifie pas forcément revenir sur ces choix. C'est en tout cas l'analyse portée par France Stratégie qui prend pour exemple les retraites. C'est le plus gros poste de dépenses de l'État, le système le plus généreux d'Europe, intégralement financé par l'argent public, soit 20 points de PIB. Faire baisser drastiquement ces dépenses semble illusoire, d'abord parce qu'il y aura de plus en plus de retraités et que personne n'est vraiment prêt à bouleverser c'est ce système de répartition. Les aides sociales et la santé, ensuite, là encore, c'est un choix de société. Idem les dépenses militaires pour un montant nettement plus élevé qu'ailleurs en Europe. Quant à l'éducation et à la recherche, si la France a là encore fait le choix d'un fonctionnement public, on s'aperçoit en revanche que l'argent dépensé dans ce domaine est inférieur à la moyenne européenne. Mais il est d'autres domaines qui ne relèvent pas de choix de société, plutôt d'options politiques et ces options coûtent cher. Le soutien à l'économie marchande en est un exemple, c'est-à-dire les aides aux entreprises, crédits d'impôt, niches fiscales et autres mécanismes. La France, sur ce sujet, est bien plus dépensière que la moyenne européenne.
Les aides publiques aux entreprises, ce sont l'une des dépenses que France Stratégie propose de réduire, mais pas seulement à Nord.
Sur 3 scénarios envisagés, le plus réaliste selon France Stratégie, c'est de faire porter les économies sur ce qui ne résulte pas d'un choix collectif, les dépenses de fonctionnement de l'administration, en particulier les collectivités locales, et puis toutes ces aides aux entreprises justement qui viennent quasiment annuler les effets des taxes sur ces mêmes entreprises. Baisser les taxes et baisser les aides au secteur économique serait source d'économies. Il faudra aussi freiner l'augmentation des dépenses sociales, mais sans effort trop pesant, estime France Stratégie, qui pose qu'on peut ainsi tout à fait imaginer une baisse de la dépense publique de 3 points de PIB en 5 ans, dans une optique de croissance faible, 1,3% par an en moyenne.
Explication signée Anne-Laure Choin. Le débat fiscal qui continue à 7h24 avec hashtag la chronique interactive du vendredi sur France Culture. Hashtag consacré ce matin aux impôts, un sujet qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Vous l'entendrez.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Un attentat en Colombie, plus de 21 personnes tuées, 68 blessées dans une attaque à la voiture piégée.
Une attaque menée contre la principale école de police du pays située au sud de Bogota. Le président colombien Iván Duque a décrété un deuil national de 3 jours après cet attentat qui est donc le plus meurtrier depuis 2003 dans la capitale colombienne. Le conducteur de la voiture piégée est mort. Il était originaire du département d'Arauca, un fief historique de la guérilla de l'ELN, l'armée de libération nationale contre laquelle le chef de l'État colombien a durci la lutte depuis son arrivée au pouvoir. L'ELN, piste privilégiée donc pour l'instant par les autorités qui n'écartent pas non plus une attaque du sanguinaire clan du Golfe Golfe, le plus puissant cartel colombien, ou encore une attaque des déserteurs des FARC. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. L'Union africaine met la pression sur la République démocratique du Congo et demande la suspension de la proclamation des résultats électoraux définitifs à Kinshasa. Selon des résultats provisoires, l'opposant Félix Tshisekedi aurait remporté la présidentielle, mais le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, garderait une confortable majorité à l'Assemblée nationale. Un autre opposant, Martin Fayoulou, revendique lui aussi la victoire à la présidentielle. Il a d'ailleurs saisi la Cour constitutionnelle. Confusion politique donc et violences ethniques, l'ONU affirme qu'au moins 890 personnes ont été tuées dans des affrontements dans le centre du pays, dans la province de Maïdombé. La correspondance d'Anthony Fouchard.
La ville de Yumbi pourrait être idyllique. À quelques kilomètres au nord, l'épaisse forêt équatoriale congolaise. Plus au sud, la savane et enfin, juste en face, le Congo-Brazzaville, si proche voisin, simplement séparé par une frontière fluviale. Des bras de fleuve et de multiples petites îles cultivées par les habitants. Mais le 16 décembre, ce sont des fosses communes et des charniers qui y ont été creusés. Deux jours auparavant, l'enterrement d'un chef traditionnel sur les terres d'une autre ethnie provoque l'étincelle. En quelques heures, plusieurs centaines de personnes sont tuées, la plupart abattues avec des armes automatiques. Et c'est ce mode opératoire qui interroge les enquêteurs. Peut-on parler de crimes interethniques dans cette zone, essentiellement pastorale et agricole, au vu de l'ampleur de ces massacres? Le gouverneur de la région, proche du président Kabila, est accusé d'avoir instrumentalisé le conflit et même d'avoir armé certains villageois à quelques jours des élections. Des allégations que les Nations Unies tentent toujours d'étayer. Plusieurs habitants témoignent d'un mode opératoire quasi militaire, des hommes qui font du porte-à-porte et abattent sans distinction hommes, femmes et enfants, les pourchassant même jusque dans les forêts pour les achever. Ce ne serait pas la première fois que des tensions communautaires sont instrumentalisées à des fins politiques au Congo. En tout cas, ce déferlement de haine a abouti à l'annulation du scrutin présidentiel dans cette zone acquise à l'opposition.
Anthony Fouchard en République démocratique du Congo pour France Culture. Un médecin et un enfant ont été tués hier au Soudan lors de manifestations contre le régime du président Omar el-Béchir. Il est au pouvoir depuis plus de 30 ans, accusé d'avoir également plongé le pays dans le marasme économique. Il a décidé de tripler le prix du pain, c'était à la mi-décembre, et depuis, les manifestations s'enchaînent contre lui. Le temps de ce vendredi 18 janvier, marqué par un risque de regel ce matin dans la moitié nord de l'Hexagone, et par une nouvelle perturbation qui arrivera par l'ouest du pays. Les températures sont comprises ce matin entre moins 4 et 0 degrés dans la moitié nord, 0 à 4 dans le sud-ouest, 4 à 7 dans le sud-est. Au meilleur de la journée, il fera entre 4 et 10 degrés d'est en ouest, jusqu'à 17 degrés en Corse.